Il est 8h06 minutes. Parlons de sport, mon cher François. Et là, je cherche ma feuille. On va rejoindre Jérémy Filosa. Bonjour, Jérémy.
Salut.
Salut.
Excuse-moi, j'avais de la grande visite dans le studio.
Ben oui, écoute. Jérémy, écoute, grosse nouvelle hier. On l'attendait depuis déjà quelques jours, même certains depuis quelques semaines. Finalement, le CF Montréal pourra disputer un match au Stade Saputo et devant 5000 personnes.
Ouais, ben on a eu chaud, hein. Je veux dire, le match, c'est dans deux jours. On aurait aimé que ça se règle au moins une semaine d'avance, 10 jours, pour qu'on puisse en avoir le cœur net, pour que les gens qui veulent acheter des billets puissent le faire et tout ça. Malheureusement, on a dû attendre jusqu'à la dernière seconde et même hier, il y a eu beaucoup de confusion à savoir si oui ou non ce match-là allait avoir lieu, puisque il y a des départements au gouvernement, malheureusement, fédéral. J'aurais peut-être posé la question à Justin Trudeau si j'étais là autour de la table avec vous, mais ça a été un peu mal communiqué, tout ça. En fait, ce qu'on a appris en fin de soirée, c'est que ce qui a été refusé, c'est l'exemption de dossiers d'ordre d'intérêt national, c'est-à-dire que la MLS a demandé des exemptions pour les joueurs non vaccinés. Ça, ça a été refusé. Mais pour le reste, hier soir, le gouvernement a confirmé, nouvelle extrêmement importante, c'est que les athlètes venant de l'extérieur, qui viennent ici compétitionnés et qui sont vaccinés deux fois, n'auront plus à passer par cette quarantaine de 14 jours, ce qui fait en sorte qu'on peut avoir finalement des matchs au Stade Saputo. Et c'est aussi une excellente nouvelle pour Eugène Lapierre, qui espérait aussi cette nouvelle-là hier en conférence de presse là, pour ce qui est de notre tournoi de tennis là, qui arrive dans quelques semaines.
Mais c'est pas une exemption pour les sportifs, parce que le règlement dit qu'un travailleur, par exemple, qui vient des États-Unis, qui a reçu ses deux doses, peut rentrer au pays, venir travailler sans une quarantaine. Parce qu'il y a des gens qui me disaient, ben écoute, François, que c'est ça, on fait des privilèges pour les athlètes professionnels. Non, c'est pas ça. C'est pas exactement ça.
Ben, en fait, oui, là, c'est vraiment clairement et spécifiquement indiqué que les athlètes font partie de ça, dans le fond.
C'est ça.
Ils font partie de ce groupe-là et ils peuvent maintenant entrer au pays. Mais ça n'avait jamais été expliqué et dit clairement comme ça a été fait dans le communiqué d'hier soir. Donc maintenant, il y a plus d'ambiguïté. Ils peuvent traverser les lignes et venir compétitionner ici. Puis, je sais que les gens peuvent penser que, c'est des athlètes, ils gagnent des grosses sommes et tout ça. C'est pas le cas pour tout le monde. Là. Il y a bien des joueurs dans le CF Montréal qui gagnent moins que 100 000 $. Et il faut comprendre que ces athlètes-là sont aussi soumis à des règlements sanitaires imposés par la Ligue qui sont extrêmement stricts. Je pense pas que le commun des mortels a le goût de se faire mettre le Q-tip dans le nez à tous les matins pour se faire tester, pour voir s'il y a la COVID ou pas. Donc, ils ont des choses qu'ils doivent suivre que nous, le commun des mortels, on n'a pas à vivre à tous les jours. Donc, moi, je pense que c'est correct. Et ça met fin à un très long cauchemar pour l'organisation du CF Montréal, qui a été une équipe nomade qui s'est promenée partout en Amérique depuis un an et demi, souvent ne sachant pas à quelques jours d'un match où est-ce qu'ils allaient jouer. Et malgré ça, l'équipe se maintient. Ils sont quatrièmes dans la conférence de l'Est. C'est extraordinaire. Et j'espère qu'à partir de maintenant, les gens vont aller encourager cette équipe qui nous donne du bon soccer.
Mais c'est justement ce que j'allais dire tout à l'heure. C'est qu'est-ce que ça change pour eux de jouer à la maison, d'avoir plus de stabilité? J'imagine que ça doit être plus facile là, parce que t'as ton centre d'entraînement.
T'as retrouvé dans tes affaires,
ton centre d'entraînement, puis après ça, le stade, puis tout ça, c'est pour l'équipe, c'est beaucoup mieux, là.
Ben ça c'est certain. Écoutez, là, on va retrouver une vie plus normale. Maintenant, je me demande si psychologiquement, j'espère qu'il n'y aura pas de relâchement, parce qu'on va se le dire là, l'entraîneur Wilfried Nancy a beaucoup utilisé cette situation pour motiver ses troupes et dire, écoutez là, il y a personne qui pense à nous ici, c'est nous contre le monde. Puis si on veut s'en sortir, ben il faut qu'on redouble d'efforts, sinon on s'en sortira pas. Regardez la situation, Toronto FC est pratiquement dernier dans la conférence de l'Est. Même chose pour Vancouver dans l'Ouest. Donc ça a été extrêmement difficile pour ces équipes-là, et c'est pas pour rien qu'après un tiers de saison, déjà le nom de Wilfried Nancy commence à circuler pour ce qui est des candidats d'entraîneur de l'année dans la MLS. Donc, ils ont fait un excellent travail jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a des petites problématiques puisque, selon ce qu'on comprend, par exemple, le défenseur central Kiki Struna, qui joue de façon régulière dans l'équipe, il ne serait pas vacciné. On ne l'a pas vu à l'entraînement de la semaine à Montréal, et donc ça va devenir un cas problème. C'est un joueur partant dans l'équipe. On peut pas le remplacer en claquant des doigts. Et au moment où on se parle, il est chez lui. Il ne peut pas sortir, selon ce qu'on comprend.
Okay, parce que les joueurs vaccinés, non vaccinés, peuvent pas jouer?
Ben, en fait, lui, il doit faire sa quarantaine de 14 jours.
Ah, okay,
après ça, il va pouvoir jouer. Mais la minute qu'il va sortir du Canada pour aller jouer un match sur la route et va revenir...
Ça va être encore la même affaire.
Et c'est ça, exactement. Ouais. Donc, tu sais, ça peut pas continuer comme ça. Soit que le joueur va devoir se faire vacciner, puis là, ça va prendre quand même plusieurs semaines avant qu'il soit complètement vacciné, ou sinon, il va falloir lui trouver une autre équipe et surtout lui trouver un remplaçant et sa presse, parce que on a besoin de... La profondeur de l'équipe va vraiment commencer à être testée bientôt.
5000 spectateurs dans le stade de Saputo. Est-ce que c'est quoi? C'est le tiers de la capacité? Ou il rentre combien de spectateurs normalement dans ce stade-là?
En fait, on a diminué la capacité il y a de ça quelques années à tout juste en bas de 20 000. Donc, c'est à peu près un quart, là, disons.
Okay.
C'est sûr que là, on voit qu'au tennis, dans un amphithéâtre de 12 000, il va y avoir 5 000. Au stade Saputo, 20 000. Il va y avoir 5 000. Ça va être la même chose pour les Alouettes. Je pense qu'il y aurait moyen d'augmenter ce chiffre-là un peu. D'ailleurs, dans le communiqué du CF Montréal hier, on a indiqué qu'on allait continuer à travailler pour essayer de faire augmenter ce chiffre-là.
Là, c'est à l'extérieur, en plus.
Oui, puis en plus exact. Ça, Toronto a droit à 7 000 personnes pour le match.
Ben ça, puis ce chiffre-là, c'est vraiment au niveau du provincial, parce que jusqu'à maintenant, là, on se battait avec le fédéral. Là, c'est vraiment au niveau du provincial. Hier, les Blue Bombers de Winnipeg ont confirmé via leur compte Twitter que la province leur avait donné le droit, dès l'ouverture de la saison de la Ligue canadienne, qui s'amorce dans quelques semaines, d'être à pleine capacité, à 100%. Ouais. Donc, eux, ça va être 35 000 et plus. Le stade va être plein. Donc, ça, c'est vraiment de la gestion provinciale. Et je pense qu'on va essayer d'aller chercher un nombre maximal. Mais j'ai juste hâte, samedi soir, de me retrouver au stade et de voir un match. Tu sais, pour nous, les sportifs, là, de ne pas avoir eu la chance de voir du sport professionnel en direct depuis près de 2 ans maintenant à l'extérieur, ça a été extrêmement difficile. Puis là, on va avoir du tennis, on va avoir les Alouettes, on va avoir le CF Montréal. On va recommencer à vivre un peu plus normalement pour ceux qui aiment ce type d'activité-là. Et ça, c'est extraordinaire, ça n'a pas de prix.
Es-tu capable de t'habituer à ça, toi, CF Montréal?
Non, mais moi, ce que je fais, c'est que quand je fais référence à tout ce qui s'est passé avant le mois de janvier 2021, je dis l'impact.
Ouais.
Et tout ce qui se passe après, je dis CF Montréal. Mais ce que je vois et ce que je constate, c'est que plusieurs personnes gardent le nom Impact comme surnom. Vous savez, plusieurs équipes ont des surnoms. Par exemple, le Toronto FC, ce sont les Reds. Les gens, souvent, on va utiliser un troisième nom. Comme le Canadien ont plusieurs noms, c'est le Tricolore, les Habs et tout ça. Donc, je pense que ça va rester. Et, tu sais, moi, personnellement, vous connaissez mon opinion là-dessus. J'étais un peu choqué par le changement de nom. J'étais attaché à cette marque, à ce logo, surtout le bouclier avec le fleur de lys. Moi, je le trouvais extraordinaire.
Mais je trouve que c'est un bon nom, l'Impact, en plus, parce que ça se dit bien autant en français qu'en anglais.
Ben, c'était ça le but.
Puis les gens ici, autant à Montréal que dans la province, on avait adopté le nom de l'Impact. Puis là, tout d'un coup, on se fait imposer CF Montréal. On dirait que pour la majorité des gens, là, Jérémy, je dis, on dirait qu'on n'est pas capable de se le mettre en tête.
Ah non, écoute, ça a tout simplement pas passé. Puis encore aujourd'hui, attendez-vous samedi là, dans le stade à ce qu'il y en ait plusieurs avec des chandails de l'Impact et que les fan clubs qui chantent durant le match chantent encore des chansons avec les références du nom de l'Impact dans leur chant, dans leur cri et tout ça. Moi, je fais référence, par exemple, à Chicago qui a changé son logo, le Fire de Chicago. Les gens ont détesté. Un an plus tard, ils sont revenus au logo original. Même chose pour Columbus qui voulait changer son nom et son logo. Et quand ils l'ont présenté, ça a été tellement mal accueilli que quelques semaines plus tard, ils ont dit « Bon, ben garde, désolé, on revient à ce qu'on avait avant. » Donc, il faut que tu écoutes, selon moi, tes partisans. Et j'espère qu'à la fin de cette saison, on va avoir une réflexion par rapport à ça, parce que clairement, les gens n'ont pas apprécié. Puis, écoutez,
on s'habitue pas.
Non. Puis il y a des gens qui ont vraiment senti un détachement complet à propos de cette équipe-là, ne se retrouvent plus, notamment à cause justement du changement de nom et de logo.
Puis surtout qu'il n'y avait pas de controverse là, entourant le nom.
Absolument pas.
Ça faisait pas référence, je sais pas moi, aux Premières Nations, comme on a vu avec les Redskins, les Blackhawks, etc.
En fait, là, je me souviens pas d'une organisation nord-américaine, là, Canada, États-Unis, tout sport confondu, qui a changé son nom il y en a qui ont raccourci leur nom. Les Devil Rays sont devenus les Rays, des choses comme ça. Mais pour le reste, le mis à part justement des équipes qui avaient des noms qui aujourd'hui n'ont plus leur place, c'est du jamais vu. C'est vraiment du jamais vu. Et non, ça passe toujours pas. Et pour moi, c'est comme un peu dire ce qui s'est passé avant, on l'oublie. Vous savez, quand je vois sur les médias sociaux des images que l'équipe partage d'anciens joueurs, puis là, on efface le logo. On voit le joueur sur le terrain, mais le logo a été effacé.
Voyons donc, toi.
Ah, oui, puis je trouve ça tellement cheap. Et de voir que, par exemple, on avait une page historique sur le site du CF Montréal et il n'y a plus de lien sur le site pour aller trouver cette page-là pour lire c'est quoi l'histoire de cette équipe-là. Donc, c'est ça qui agace c'est encore
comme,
plus
c'est comme
les
si
gens.
Tu mettais une vieille photo de Joe Sakic avec un gilet des Nordiques puis tu le remplaçais avec celui de l'Avalanche.
Ben, c'est ça. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de Mathieu Chouanière, il y a quelques semaines, un Québécois formé par l'Académie de l'Impact de Montréal qui marque son premier but en MLS. On est fiers, on est contents.
Ouais. C'est et un Joannais.
Ben, écoute, l'équipe partage sur ses médias sociaux une photo d'un jeune Mathieu Chouanière à 13 ans dans l'Académie, sauf qu'on coupe le logo de l'Impact pour montrer que c'est plus ça. Tu sais, les gens ont réagi et ont dit, ben voyons donc, on est-tu fiers ou on n'est pas fiers de ce qu'on a fait? C'est pas correct, c'est là où on se trompe.
Jérémy Filosa, merci beaucoup.
C'est toujours un plaisir, Jérémy. Merci beaucoup.
Salut, bye-bye.
Au revoir.